Faisons une petite expérience de pensée juste pour démarrer notre analyse d'aujourd'hui. Mettons qu'on a quelqu'un qui fait son épicerie en personne.
D'accord, je te suis.
Fait que cette personne-là passe une bonne heure à choisir minutieusement ses produits, elle remplit son chariot de choses dont elle a vraiment besoin, puis elle se dirige vers la caisse. Et là, au moment exact de payer, le caissier ajoute soudainement une taxe de transport de chariot de 35 $.
Ah, mon Dieu! Sans aucune explication!
Zéro explication, juste 35 $ de plus, bam! Dans le monde physique, on s'entend que n'importe qui laisserait tout sur place et sortirait du magasin, genre en riant jaune.
Tellement! C'est sûr qu'on ferait ça!
Mais pourtant, dans le monde du commerce en ligne, ben c'est exactement ce qui se passe tous les jours. C'est littéralement ce qui tue près de la moitié des ventes à la toute dernière seconde.
Oui, c'est une image qui est frappante, mais c'est la stricte réalité. Tu sais, on passe souvent un temps fou puis un budget énorme à optimiser l'esthétique d'un site web, à créer des fiches de produits super impeccables, mais on néglige complètement le moment où la friction est la plus forte.
La fameuse caisse.
Exact. Le checkout. C'est là que tout se joue.
C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, notre décryptage se penche sur un document stratégique très spécifique de l'industrie. Ça s'intitule « Why your checkout shipping strategy might be hurting conversions ».
Ce qui veut dire, en gros, pourquoi la stratégie d'expédition à la caisse nuit à vos conversions.
C'est ça. Fait que l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique derrière ce point de rupture-là, surtout pour les PME d'ici, les PME canadiennes. La source pose un constat assez sévère, d'ailleurs, dès le début.
Oui, les chiffres mentent pas. Près de 40 % des entreprises ont des défis majeurs avec leur vente en ligne en ce moment. Et l'obstacle numéro un, ben c'est pas le produit, c'est les coûts d'expédition.
40 %, c'est énorme.
C'est gigantesque. Et le document va plus loin, en fait, en expliquant que l'enjeu, c'est pas juste la vente immédiate qui est perdue sur le coup.
C'est plus profond que ça, hein?
Vraiment plus. Quand un consommateur subit ce genre de surprise à la caisse, la marque perd ce qu'on appelle la valeur à vie du client, le fameux « customer lifetime value ».
Ah, parce que la relation est brisée.
Lumière, une plateforme centralisée qui s'appelle « ClickShip ». C'est un outil qui a été conçu pour éliminer ces frictions spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sans exiger de frais initiaux ou de frais mensuels.
Bon, décortiquons tout ça, parce qu'avant d'aborder les solutions technologiques plus complexes, il faut vraiment s'attaquer à ce fameux problème de la facture surprise. On parlait de la taxe de chariot imaginaire tantôt.
Oui, le concept de la taxe surprise...
Dans l'industrie, ils appellent ça le sticker shock, le choc de la facture.
Ce qui est fascinant ici, c'est que le choc de la facture, c'est un phénomène qui est profondément psychologique.
Comment ça?
Bien, un consommateur qui navigue en ligne, il est mentalement prêt à payer le prix affiché pour un objet, mettons, une centaine de dollars. Son cerveau a déjà rationalisé cette dépense-là. Il se dit, c'est correct, ça vaut 100 $.
Jusque-là, tout va bien.
Mais quand il arrive à l'étape finale, à la caisse, et qu'un tarif d'expédition vague ou genre arbitrairement gonflé s'ajoute, le cerveau perçoit ça comme une injustice.
Comme si on se faisait avoir.
Exact. Presque comme une tentative d'extorsion de la part du marchand. Fait que le réflexe de défense naturel se déclenche, l'onglet est fermé d'un coup sec et le client va directement sur un site concurrent.
D'accord. Je comprendrais bien la psychologie derrière ça. Mais soyons l'avocat du diable une seconde. Si le vrai coût pour expédier une commande est objectivement super élevé...
C'est un bon point.
Parce que la plateforme proposée dans notre source, elle mise sur la transparence avec des tarifs en temps réel. Mais mettons qu'on affiche un prix en temps réel de 80 $ pour expédier une chaise qui en vaut juste 100. Ça va quand même faire fuir le client, non? Est-ce que cette transparence totale risque pas de se retourner contre le marchand au final?
C'est une excellente objection, vraiment. Afficher le prix réel, c'est sûr que ça ne rend pas l'expédition magiquement gratuite. Cependant, le vrai problème avec les systèmes traditionnels, c'est que pour se protéger contre les pertes, beaucoup de marchands vont imposer un tarif fixe global.
Genre un flat rate?
C'est ça. Disons 50 $ pour absolument tous les envois, peu importe la destination.
Oui, OK.
Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que le client qui habite juste à côté, mettons, dans la même province, et dont l'expédition coûterait normalement juste 15 $ en réalité, ben il voit ce tarif fixe de 50 $ à la caisse.
Ah, je vois le genre. Et lui se sent floué.
Totalement. Il abandonne son panier immédiatement.
Fait que dans le fond, le marchand perd les ventes faciles et locales parce qu'il essaie de surcompenser pour les ventes lointaines qui coûtent plus cher à livrer. C'est un peu un cercle vicieux.
Voilà, c'est le pire des demandes. En intégrant une tarification dynamique via une API, une interface qui interroge directement les transporteurs nord-américains en temps réel, ben ClickShip offre de l'exactitude.
La vraie donnée au moment présent.
Exact. Le client local y voit son 15 $, ça lui semble juste, et il convertit son panier. Le client éloigné, lui, paie peut-être plus cher, mettons son 80 $, mais au moins le marchand ne perd pas d'argent sur cette vente-là. Et surtout, le document insiste sur un détail vraiment crucial pour la confiance.
Lequel?
À la caisse, le client voit le logo du transporteur.
Ah, comme le logo de FedEx, de Post Canada ou du PS, genre?
Exactement. Et psychologiquement, ça change absolument tout. Le client ne se dit plus « ce marchand-là essaie de me soutirer de l'argent en cachette ». Il voit le logo officiel et il comprend que c'est la réalité du marché. C'est le coût réel du réseau logistique de ce transporteur spécifique-là.
Ben, c'est rationnel. Il paie le service de livraison, pas une taxe inventée.
Cher avec tel transporteur, ben, l'outil lui permet de sélectionner une option standard, plus économique, avec un autre transporteur.
On redonne le pouvoir au client au lieu de lui imposer un prix?
C'est ça. Redonner ce pouvoir décisionnel, ça désamorce complètement le choc de la facture.
C'est une dynamique très intéressante pour les petits colis, les boîtes standards. Mais poussons la réflexion un peu plus loin.
Je t'écoute.
Cette transparence-là, c'est facile à gérer quand on envoie une boîte de souliers ou un T-shirt. Mais qu'est-ce qui arrive quand les règles de la physique changent complètement?
Ah, les gros morceaux!
Oui, mettons qu'une PME d'ici fabrique et vend des divans ou des tables à manger en chaîne massif. Là, tu sais, on parle plus pantoute d'une boîte qui se glisse facilement dans un petit camion de livraison ordinaire, là.
Et c'est précisément là que les PME perdent souvent toute leur marge de profit. Tenter de faire passer un article lourd ou super volumineux dans un réseau de colis standard, c'est une erreur stratégique majeure.
Mais pourquoi ne pas simplement, dans ce cas-là, imposer un tarif fixe très élevé? Si le divan est massif, le marchand met un tarif d'expédition de 300 $ et le problème est réglé, non?
C'est une fausse bonne idée, vraiment. Et ça, c'est à cause de la façon dont les réseaux de messagerie traditionnels sont construits physiquement.
Les entrepôts, tu veux dire?
Oui, il faut comprendre la mécanique interne des centres de tri. Ces installations gigantesques-là, elles sont optimisées pour une seule chose, la vitesse. Il y a des convoyeurs automatisés, des courroies qui font défiler des milliers de petites boîtes à toute vitesse.
Ça roule sans arrêt.
Exact. Fait que si tu y injectes un divan de 150 livres, tu casses littéralement le flux.
Le convoyeur, il est physiquement pas capable de gérer ça, j'imagine. La boîte est trop grosse.
Elle est énorme. Elle bloque les scanners, elle risque de chuter, de bloquer la ligne complète. Résultat, le transporteur n'a pas le choix. Il doit retirer le colis de la chaîne automatisée et des employés doivent le manipuler manuellement avec des chariots ou des équipements spéciaux.
Fait que ça demande du temps et des bras.
Beaucoup de temps et de bras. Et cette main-d'œuvre supplémentaire, elle coûte extrêmement cher. Et devine qui paye pour ça? Le transporteur refile la facture au marchand sous forme de ce qu'ils appellent des surcharges pour articles surdimensionnés.
Ah, les fameux frais cachés post-expédition.
Ces pénalités-là peuvent atteindre des centaines de dollars par article. Donc, si notre marchand impose un tarif de 300 $ à son client, pensant être couvert, il pourrait recevoir une facture réelle de 500 $ du transporteur à cause des surcharges de manutention.
Ouch! Il vient de perdre 200 $ sur sa vente juste en frais de livraison.
C'est désastreux pour la rentabilité.
D'où la nécessité de changer complètement de réseau physique. Et c'est là que le document introduit le fret, le LTL, pour Less Than Truckload, ou chargement partiel en français.
Oui. Et tu sais, le LTL en soi, c'est pas une invention nouvelle. Les entreprises s'en servent depuis longtemps. Mais l'innovation dont parle la source ici, c'est l'intégration de ce devis de fret directement à la caisse, au moment même du check-out.
Donc, le client qui achète son divan voit un prix de transport par camionnage en temps réel.
Exactement. ClickShip s'associe à des transporteurs de fret. Et l'algorithme génère un tarif instantané basé sur le LTL pour le client final.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la marchandise elle-même d'être expédiée en fret plutôt qu'en colis régulier volumineux?
Si on ramène ça au contexte global de l'expérience client, ça change toute la méthode de manutention. En LTL, la marchandise est généralement sécurisée sur une palette en bois.
Fait que c'est pas juste une grosse boîte loose?
C'est ça. Et c'est le jour et la nuit en termes de sécurité. Une boîte géante manipulée à la main dans un centre de colis normal a de fortes chances d'être échappée, écrasée ou endommagée par d'autres paquets.
Ce qui amène des retours, des plaintes.
Exact. Alors qu'un meuble bien sanglé sur une palette, manipulé uniquement par des chariots élévateurs professionnels, ça subit beaucoup, beaucoup moins de chocs. Le document souligne d'ailleurs que ça réduit considérablement les réclamations pour dommages.
Et j'imagine que pour le client à la maison, recevoir une palette propre, c'est mieux que de recevoir une boîte de carton toute déchirée.
ça garantit une expérience de déballage, un unboxing beaucoup plus positive et professionnelle.
OK, donc on règle le problème des objets supermassifs en les mettant sur des palettes via le fret. C'est tout à fait logique. Mais on tombe sur un autre problème qui est honnêtement fascinant dans sa complexité logistique.
Ah, je pense savoir de quoi tu vas parler.
C'est une faille que la majorité des systèmes en ligne échouent misérablement à gérer. Et si notre marchandise est techniquement un seul produit à l'achat, mais qui doit absolument être livré dans plusieurs boîtes distinctes?
Ah oui! Le fameux casse-tête des produits complexes. C'est une douleur opérationnelle majeure pour tellement d'industries en ce moment.
Prenons un exemple concret. Un gym à domicile, tu sais, un module d'entraînement avec des poulies. Sur le site web, le client clique et achète le Super Gym modèle X.
Un seul produit dans le panier.
Un seul clic. Mais dans la réalité de l'entrepôt, c'est expédié en trois boîtes séparées. Une boîte pour le banc, une boîte lourde pour les poids et une longue boîte pour la structure métallique. Si les systèmes de commerce en ligne habituels essaient de calculer l'expédition pour ça, comment ils réagissent, mettons?
Bien, ils réagissent très, très mal. La grande majorité des plateformes e-commerce vont tout simplement additionner le poids de ces trois boîtes-là. Disons qu'elles font 60 livres chacune. Le système va faire le total, 180 livres, et envoyer une requête au transporteur pour expédier une seule grosse boîte fantôme de 180 livres.
Une boîte qui n'existe même pas. C'est comme s'ils essayaient de faire coter un bloc de béton de 180 livres.
C'est exactement ça. C'est l'analogie parfaite. Le système pense qu'il a affaire à un énorme bloc intransportable. Et qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche automatiquement toutes les surcharges de manutention manuelle et de surpoids dont on parlait tout à l'heure pour les divans.
Ah! La boucle est bouclée.
Fait que le prix d'expédition qui s'affiche à la caisse, il explose complètement. Le pauvre client voit un tarif faramineux et évidemment, il abandonne son panier. Alors qu'en réalité, trois boîtes distinctes de 60 livres, ça passe super bien sans aucun problème sur les convoyeurs automatisés standards.
Sans aucune surcharge de manutention.
Exact.
C'est fou. C'est une aberration algorithmique qui gonfle les prix artificiellement et qui tue la vente. Comment le document propose-t-il de contourner cette faille-là?
C'est là que la source mentionne une fonctionnalité vraiment intéressante, exclusive au Canada, offerte par ClickShip. Ça s'appelle le One SKU Multibox.
Le One SKU Multibox, OK.
La solution se trouve vraiment dans la façon dont la plateforme communique en arrière-plan avec l'API des transporteurs.
Qu'est-ce qui se passe concrètement, là, d'un point de vue technologique?
Le système permet de prendre ce code d'inventaire unique, là, le fameux SKU du Super Gym, et de le diviser virtuellement dans la base de données du marchand. On y crée des pré-réglages d'emballage spécifiques.
Donc, on dit au système, ce produit égale trois boîtes de telle dimension.
C'est ça. Ainsi, quand le client passe à la caisse, l'algorithme ne demande plus au transporteur le prix pour une masse informe de 180 livres. La requête informatique est très précise. Elle demande quel est le tarif exact pour expédier trois colis distincts ayant chacun des dimensions et des poids spécifiques et acceptables.
Et puisque chaque boîte individuelle reste bien en dessous des limites de poids des convoyeurs automatisés,
on évite toutes les surcharges de manutention manuelle.
Wow! Le tarif s'effondre, redevenant juste et réaliste pour l'acheteur.
Et à la beauté de la chose pour le marchand d'un point de vue purement opérationnel, c'est pour son équipe, c'est l'automatisation.
Parce que faire ça à la main pour chaque commande, ça serait l'enfer.
Exact! Le document précise qu'il n'est absolument pas nécessaire de paramétrer ces règles-là manuellement pour chaque vente. Un gestionnaire d'inventaire peut configurer des centaines de produits complexes simultanément en utilisant un simple import de fichiers CSV.
C'est super efficace!
Une fois que c'est paramétré et enregistré dans le système, le calcul complexe se fait en une fraction de seconde à la caisse, sans intervention humaine.
C'est le genre d'ingénierie invisible qui fait vraiment la différence entre une entreprise qui stagne et une entreprise qui vend massivement. On voit bien comment la gestion fine des colis individuels, la transition vers le fret pour les très gros objets, puis la fragmentation intelligente des produits multiboîtes assainissent l'opération locale.
C'est la base pour bien fonctionner.
Mais pour une PME canadienne que le vent dans les voiles, la croissance amène inévitablement un autre défi. On s'entend que le marché local, avec nos 40 millions d'habitants, il finit par plafonner un jour ou l'autre. Et là, il faut regarder vers le sud.
L'expansion vers le marché américain. C'est l'étape logique, le Saint Graal pour plusieurs. Mais c'est aussi là que bien des ambitions s'effondrent de façon assez dramatique.
Parce qu'il y a la frontière.
Oui, le mur invisible.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est là que je me pose une question fondamentale en lisant ça. Est-ce qu'on doit juste accepter que les frais de douane surprise soient un mal nécessaire? Tu sais, beaucoup de commerces en ligne semblent fonctionner sur le principe que c'est la responsabilité de l'acheteur international de gérer les imprévus à la réception de son colis.
C'est un peu un jeu de roulette russe douanière.
C'est exactement ça. Je t'ai envoyé le paquet, arrange-toi avec tes douanes. C'est pas un peu ça le standard?
Cela soulève une question importante sur la philosophie de service. Traiter l'exportation comme une roulette russe, c'est la recette garantie pour un désastre relationnel total avec la clientèle. Le document s'attarde d'ailleurs longuement sur ce point précis. Ce modèle-là, destructeur de confiance, y porte un nom dans l'industrie. C'est le modèle DDU, pour Delivered Duty Unpaid, ou en français, rendu droit non acquitté.
Comment ça se traduit concrètement pour le consommateur? Mettons quelqu'un qui achète une belle veste sur un site canadien depuis l'Ohio.
Bien, dans le modèle DDU, ce client américain est là, paie son produit et la livraison de base sur le site canadien. Il finalise sa transaction et il pense que tout est réglé, que c'est terminé. Son colis est expédié, il arrive à la frontière américaine et là, les douanes l'inspectent et lui imposent des frais.
Normal.
Un courtier en douane avance l'argent pour débloquer le colis rapidement et le transporteur livre la marchandise à la porte du client en Ohio.
Jusque-là, tout va bien. Le client a son manteau.
Sauf que, 3 semaines plus tard, ce même client reçoit une petite lettre par la poste de la part du courtier ou du transporteur et c'est une facture surprise qui réclame le remboursement des droits de douane, des taxes locales de l'État, plus des frais de courtage administratifs qui sont souvent exorbitants.
Ah, c'est le genre de lettre qui donne l'impression profonde de se faire arnaquer.
Absolument. Le consommateur se sent piégé, pris en otage par la marque canadienne, et le document montre très clairement les conséquences de ça. Les boîtes de réception du service à la clientèle de la PME sont inondées de messages furieux, la charge de travail de l'équipe de support explose pour gérer ces crises-là, et l'entreprise récolte des avis désastreux sur Internet.
Ça détruit littéralement toute chance de fidéliser cette clientèle américaine-là. Le gars en Ohio n'achètera plus jamais rien sur un site canadien.
Jamais. Le pont est brûlé.
Alors, quelle est l'alternative? Comment la plateforme évoquée dans notre analyse permet-elle de contourner cette frustration, ce fameux DDU?
En renversant complètement le paradigme, il faut adopter le modèle DDP pour Delivered Duty Paid ou rendu droit acquitté. La source indique que ClickShip facilite grandement cette transition-là grâce à une fonctionnalité de tarif transfrontalier garantie.
Garantie.
Oui.
L'idée, c'est de calculer et de percevoir absolument tous les frais pertinents. L'expédition, les droits de douane, les taxes de l'État américain et les fameux frais de courtage. Tout ça perçu au moment exact de la transaction directement dans le panier d'achat. Le concept est séduisant, c'est clair, mais le terme « garantie » est audacieux en maudit. Les réglementations douanières, c'est d'une complexité ahurissante. Ça change tout le temps. Comment un système logiciel peut-il garantir à 100% qu'un agent frontalier zélé ne va pas ajouter des frais le mardi suivant?
C'est tout le pouvoir des données structurées. C'est de là que vient la garantie. Mais elle tient à une condition bien précise, l'exactitude des informations fournies par le marchand dans son propre catalogue de produits. Le nerf de la guerre ici, on en parle souvent, ce sont les codes HTS.
Ah, les fameux codes du système harmonisé de désignation des marchandises, c'est vrai que c'est crucial.
C'est ça. Ce sont des codes internationaux universels qui classifient très, très précisément chaque type de produit imaginable.
Donne-moi un exemple pour qu'on comprenne bien l'impact.
Mettons qu'un marchand vend un T-shirt en coton basique. S'il se trompe et que son code HTS dans le système correspond genre à un vêtement de luxe en soie pure, les douanes vont appliquer automatiquement le tarif d'importation de la soie, qui est beaucoup, beaucoup plus élevé.
Et là, la garantie tient plus parce que la donnée de base était fausse.
Exactement. Mais si le marchand fait bien ses devoirs et s'assure que ses codes HTS, la valeur déclarée de ses produits, le pays d'origine de fabrication et la description détaillée sont scrupuleusement exacts dans l'interface de ClickShip, bien là, l'algorithme est capable de croiser toutes ces données-là avec les lois fiscales en vigueur en temps réel.
Donc, l'algorithme anticipe la facture exacte et finale des douanes avant même que le colis parte.
C'est ça. Et ClickShip s'engage sur ce chiffre-là. Si toutes les données étaient parfaitement correctes et qu'il y a un écart mystérieux à la frontière, le client final ne sera jamais, au grand jamais, sollicité pour payer la différence. La transaction post-livraison n'existe juste plus.
Les répercussions pour une PME canadienne sont massives quand on y pense sérieusement. En éliminant la facture chauffeuse des semaines plus tard, l'expérience d'achat d'un citoyen américain sur un site basé à Montréal ou à Toronto devient indiscernable d'un achat local.
Tout à fait.
C'est aussi fluide que s'il commandait d'une petite boutique dans la ville d'à côté en Ohio. Ça libère le département de service à la clientèle, ça protège la réputation en ligne de la marque et ça permet de véritablement attaquer le marché américain de façon agressive, mais évolutive.
C'est le fondement même de la scalabilité en affaires. C'est la capacité d'une entreprise à croître rapidement sans que ses infrastructures internes ne s'effondrent sous le poids des exceptions logistiques et des plaintes.
Fait, si on prend un peu d'altitude par rapport à toutes les mécaniques techniques qu'on a détaillées aujourd'hui, il y a un fil conducteur très clair qui émerge de cette analyse du document. Que ce soit en contournant les pénalités punitives avec le LTL pour les gros meubles, en trompant positivement les algorithmes de surpoids avec les systèmes OneSKU Multibox ou en pacifiant les douanes américaines avec le modèle DDP.
La philosophie centrale,
c'est que la prévisibilité est synonyme de rentabilité.
C'est vraiment le constat le plus important de tout ça. Historiquement, tu sais, l'expédition était perçue par les commerçants comme un simple centre de coût, un mal nécessaire, un trou noir financier qu'il fallait tolérer en se bouchant le nez.
Une taxe de faire des affaires, Jean.
Exactement. Mais aujourd'hui, avec des outils d'automatisation avancés qui se connectent directement à la caisse, et ça, sans imposer de barrières financières à l'entrée comme des frais d'intégration ou des abonnements mensuels, bien, l'expédition devient un réel avantage concurrentiel.
Ça devient un outil de vente.
C'est le levier stratégique qui permet d'offrir la fiabilité que le marché exige de nos jours.
La friction disparaît et boum, la conversion augmente. C'est fascinant de voir à quel point la logistique a évolué pour devenir presque invisible et transparente pour l'acheteur, tout en nécessitant une orchestration incroyablement complexe et précise en coulisses.
En effet, c'est tout un art. Et tu sais, ça nous amène inévitablement à une réflexion plus large pour l'avenir de l'industrie du commerce électronique.
Une nouvelle zone de friction à l'horizon, tu penses?
Bien, si on admet que la technologie actuelle permet aujourd'hui de rendre l'expédition sortante, c'est-à-dire du marchand vers le client, qu'elle soit locale, internationale ou complètement hors norme, de la rendre aussi fluide et prédictible, la grande question se pose. Quelle sera la prochaine grande ligne de front pour la survie et la croissance des détaillants en ligne?
C'est un super bon point. La logistique de départ, d'aller vers le client, elle est réglée ou en voie de l'être grâce à ces outils-là. Donc, il reste le mouvement inverse.
La logistique inversée, les fameux retours de marchandises.
Ah, mon Dieu!
C'est un véritable cauchemar pour les marges bénéficiaires de tout le monde. Si le processus fluide à la caisse définit l'acquisition d'un client et garantit sa première vente, c'est souvent la manière dont l'entreprise gère un retour qui va sceller définitivement la relation à long terme.
Comment transformer une opération de retour qui est fondamentalement une perte nette d'argent et temps, sur le coup, en un outil de rétention pour l'avenir? C'est un changement de paradigme qui est fascinant. Jusqu'à quel point, mettons, la facilité de renvoyer un produit par la poste définira-t-elle la longévité d'un commerce dans les 5 prochaines années?
C'est très exactement là que se jouera la prochaine guerre des parts de marché. J'en suis convaincue.
C'est une excellente piste de réflexion pour les stratèges et les entrepreneurs qui nous écoutent et qui cherchent toujours à anticiper les prochains défis logistiques. L'expédition fluide vers le client, ce n'était que la première moitié de l'équation.
Eh oui, le travail n'est jamais fini.
Voilà qui conclut notre exploration approfondie des stratégies de conversion logistique pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir partagé ton expertise là-dessus.
Ça fait plaisir.
Et merci aux gens qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans ce décryptage des rouages, parfois cachés, du commerce en ligne moderne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse qui vous aidera à y voir plus clair dans vos opérations. Gardez l'esprit critique et on se dit à la prochaine.